mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Pas Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'Emploi. Mode d'Emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir au menu, nous parlerons des chiffres du chômage des jeunes toujours, de l'explosion des contrats courts, également des suppressions, des 40 000 suppressions d'emplois dans l'associatif bien sûr. Et bien à la fin de Notre-Dame-des-Landes, puisque l'Europe a décidé de donner de l'argent à la France pour construire cet aéroport, alors qu'il y avait déjà un deuxième aéroport déjà construit qui n'utilisait que 50% de sa capacité. Bravo les gars, continuez comme ça. Je suis avec ce soir avec Ludo. Bonsoir Ludo. Bien sûr Claude à la technique. Et Gilles au micro également. Et si vous voulez intervenir dans cette émission, un seul numéro, un numéro unique, c'est le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Intervenez quand vous le voulez, il n'y a pas de souci. Bien, alors Ludo, apparemment les chiffres du chômage sont... On pensait qu'effectivement, il y a des déclarations d'hommes politiques qui pensent que dans 2014-2015, on peut éventuellement inverser la courbe du chômage. A priori, le chômage augmente encore aujourd'hui.
Ah oui, oui. Non, alors je ne sais pas. Écoute, il semblerait que non. Monsieur Hollande va tenir son pari, puisque d'accord. De baisser les chiffres du chômage, il reste deux. En fait, oui, les chiffres qui sont tombés hier sont les chiffres du mois de septembre. Et donc, il reste encore trois mois à notre ami, Monsieur Hollande, pour confirmer que le chômage va baisser en France. Donc, effectivement, c'est vrai, le chômage a baissé de 0,6%.
D'accord.
Et voilà, il n'y a plus de chômeurs en France. Il n'y a plus de chômeurs en France. D'accord. Ce qui fait à peu près de moins de 20 500 personnes inscrites sur les listes de la NPE. Sauf qu'il s'agit effectivement des chômeurs total, c'est-à-dire des chômeurs qui n'ont pas travaillé une heure dans le mois précédent. Et donc, effectivement, cette catégorie de chômeurs-là a baissé. Elle représente tout de même en France 3 752 000.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est quand même énorme. Voilà, ça fait... Oui, c'est ça. Non, pardon. 750 000. Voilà. Donc, c'est énorme, énorme. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en parallèle, la catégorie des travailleurs en activité réduite, c'est-à-dire ceux qui travaillent moins de 20 heures par semaine, a augmenté de 3,7%. Je veux dire, entre le mois de septembre et le mois d'août.
Ce qui est énorme aussi.
Ce qui est beaucoup. Oui. Et la catégorie des travailleurs réduits qui travaillent plus de 20 heures par semaine, enfin plus d'un mi-temps par semaine, elle a augmenté de 4%. Donc, ce qui signifie que, on pourrait logiquement dire que le chômage a peut-être baissé, mais qu'en tout cas l'activité précaire a fortement augmenté. Activité précaire à temps partiel, hein. Oui. On a bien entendu. Alors voilà, donc ce qui peut faire dire que ces chiffres sont un peu en trompe-l'œil parce que il faut compter en plus 645 000, disons plutôt 647 000 personnes qui sont en formation ou en emploi, mais inscrits à la NPE. Donc par là, il faut entendre en formation via la NPE, inscrits à la NPE, mais en formation, et donc dispensés de recherche d'emploi. Et en emploi, mais inscrits à la NPE, c'est très souvent tout de même des contrats aidés. Donc et qui donc effectivement ne sont pas comptés dans la catégorie des chômeurs. Bref, donc si on additionne les catégories A, B et C, on obtient tout de même un total de 4 883 000 exactement chômeurs en France métropolitaine. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est les chômeurs absolus et puis les travailleurs à temps partiel qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc ça représente énormément de chances. Et alors, ramener à un an, pourquoi d'ailleurs ces chiffres sont trompe-l'œil, c'est que ramener à un an, eh bien finalement, les trois catégories ont tout augmenté, donc en moyenne de 6%, enfin de 7%, pardon, donc 6% pour la catégorie A, 8,7 et 8,5 pour les deux autres catégories. Donc honnêtement, il n'y a absolument pas de quoi pavoiser, d'autant que, eh bien, effectivement, s'il paraît que le chômage des jeunes baisse, il reste à un niveau très élevé, et qu'on a constaté une explosion des contrats courts. Et quand j'entends des contrats courts, ça veut dire des CDD de moins d'un mois.
Ah oui.
Voilà. Donc c'était voilà.
On va en parler juste après. Je propose qu'on parle un petit peu maintenant de la jeunesse au chômage, parce que il y a plus en plus de jeunes à la recherche d'un emploi, de plus en plus de jeunes qui ont des contrats courts aussi. Mais apparemment, les jeunes, c'est quand même 18% des jeunes qui sont au chômage. C'est quand même 1 sur 5. C'est quand même énorme.
Voilà. Alors, c'est 1 sur 5. Alors, ça dépend quel critère on retient. Donc, 18%, c'est selon la DARES en 2012. Et c'est en 2012, et c'est le chômage des 15-29 ans. Alors, pourquoi le chômage des jeunes est difficile à mesurer? C'est qu'en fait, une large partie des jeunes, donc la tranche des jeunes de 15 à 29 ans, Ah oui, excusez-moi. Voilà. Donc le chômage des moins de 26 ans est à aujourd'hui à 25%.
C'est ça.
Voilà. Le chômage des entre 15 et 29 ans, lui, est à 18%. Vous voyez, si on change, on augmente un petit peu l'âge, ouais. Tout de suite le taux est pas le même. Ouais. Donc voilà, donc officiellement le chômage des moins de 26 ans, 25%. Mais pourquoi effectivement les jeunes chômeurs sont difficiles à compter? Parce qu'une une partie d'entre eux, en fait, ne sont pas sur le marché du travail. Et qui sont, ils sont à l'école. Ou, voire, ils peuvent ne pas être à l'école, mais ne pas être sur le marché du travail.
Tout à fait.
C'est-à-dire ne pas être en capacité de rechercher un travail. Et donc, la DARES a pondu une note, en novembre 2013, sur les chômeurs donc de 15-29 ans en 2012, où elle constate, hein, grosso modo, que sur, mettons, la moitié des personnes de, enfin, sur cette tranche d'âge, la moitié des personnes de 15-29 ans sont sur le marché du travail. Donc c'est pas mal quand même, hein,
c'est ça,
fait
mal, ouais.
Ça, grosso modo, c'est
50%, ouais.
53%. Ouais. Mais en réalité, 44% occupent un emploi et 9,7% sont au chômage. Donc, si on ramène le taux de chômage à la population active, effectivement, ça fait 18% de chômeurs. Mais surtout, parmi ces personnes, enfin, parmi cette classe d'âge, il y a 15% des 15-29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation. On les appelle les nets, on en avait parlé. Ça représente à peu près 900 000 personnes, je crois. Et donc, au cours de l'année 2012, le taux d'emploi, le taux d'activité, en fait, de cette catégorie d'âge a baissé de 1%, pendant que le taux de chômage augmentait de 1%. Donc, je m'explique. Le taux d'activité, ça veut dire que, qui baisse de 1%, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont retardé leur entrée sur la vie active, ou qui sont sortis de la vie active, se considérant qu'ils n'avaient aucune chance de retrouver un emploi. Et, ben, l'augmentation de 1% du taux de chômage, c'est effectivement que, dans la catégorie des actifs, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté. Donc, ce qui fait en fait une augmentation considérable des demandeurs d'emploi des jeunes. Hein, voilà. Et donc c'est tout ça, c'est au cours de l'année 2012. Donc, comme je l'ai dit, le taux de chômage des 15-19 ans est de 18% en moyenne des 15-29 ans. Et de 18% en moyenne en 2012, il s'est élevé de 1, point sur l'année. Et voilà, l'écart entre le taux de chômage des jeunes actifs de 15-24 ans peu diplômés en moyenne et celui de l'ensemble des actifs varie beaucoup selon la conjoncture économique, dit la note. Hein. Donc il a fortement augmenté depuis 2000. Donc c'est une augmentation qui est constante pour atteindre un maximum historique en 2012. Alors que le même écart mesuré sur les jeunes de 25-29 ans s'est accru plus modérément. Donc on l'a dit, hein, si on ramène le taux de chômage des jeunes à la tranche des 15-26 ans, on est à 25% de chômage. Voilà, et donc, si vous voulez, le taux de chômage devient inférieur à la moyenne nationale, donc des 15-64 ans, entre 31 et 33 ans. C'est le moment, en fait, où on est le plus employable dans la vie, sachez-le, pour les jeunes qui arrivent. Voilà, et mais on parlera plus tard, de, justement, des problèmes de ceux qui, aujourd'hui, même à 30 ans, n'obtiennent pas de CDI et sont encore en CDD, quoi. Voilà, donc, depuis 2008, un quart des emplois occupés par les jeunes de moins de 26 ans bénéficient d'une aide de l'État. Donc 25%, c'est pas mal. Et depuis 2006, une proportion croissante de jeunes de 15-19 ans en emploi sont non salariés, voilà. Et inversement, de moins en moins de travail dans la fonction publique.
Oui.
C'est moins attractif. Et enfin, en 2012, le taux de chômage, la part, comme les parts de chômage et de net sont pour les jeunes de 15-29 ans un peu inférieurs en France à la moyenne de l'Union européenne. Donc globalement, c'est vrai que d'habitude, on prend... La France n'est jamais un modèle... En France.
Tout à fait.
Mais bon, là, pour une fois, il semblerait que, y compris quand les chiffres sont quand même très mauvais, au-dessus de...
Moi, j'ai deux autres chiffres qui sont assez impressionnants, quelque part, c'est que parmi tous ces jeunes actifs au chômage, il y a quand même 16% des jeunes qui sont au chômage qui ont un niveau fin de troisième, donc BEPC, hein, ou brevet des collèges. Et parmi les gens qui sont les actifs de 15 à 24 ans, au chômage, c'est 20%, donc 1 sur 5 qui est diplômé du supérieur. Voilà. Mmh. Et quand ils trouvent du travail, tous ces gens-là, c'est un travail qui n'est pas la panacée universelle, puisque c'est évidemment des contrats courts souvent, des CDD, etc. 5% sont en intérim, contre 3% pour l'ensemble de la population. Et ça correspond à, il y a aussi 27% qui sont en CDD, soit 10% de la population active. Ce qui est quand même
c'est énorme.
Okay. Voilà, donc c'est quand même impressionnant. Alors, je ne sais pas par rapport au gouvernement et par rapport à tout ce qui a été dit sur l'inversement des chiffres du chômage. Alors effectivement, si on baisse les chiffres du chômage, c'est bien, mais si c'est pour faire plus de précarité dans l'emploi, est-ce que c'est mieux? La question reste posée. Je la pose aujourd'hui. On verra bien plus tard comment ça se passe.
On va en parler tout à l'heure. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a eu une déclaration d'un membre du directoire de la BCE, Benoît Coeur, qui parle pour la première fois d'une génération sacrifiée.
Et c'est ça, ouais,
voilà,
tout à fait.
Il disait que voilà, il y a un impératif de solidarité face à la crise, car faute d'action résolue en faveur de la croissance, devant le mot magique, hein, le risque est réel de créer une génération perdue. La crise en cours, à travers la contraction des revenus et la hausse du chômage qu'elle a provoquée, suscite l'incompréhension et parfois la colère dans de nombreuses régions d'Europe. Bah oui, il y a de quoi. Et voilà. Et donc, le taux de chômage atteint 12,2% dans la zone euro en septembre 2013, contre 7,6% au début de la crise financière, ce qui veut dire qu'avant de rattraper le niveau, il faudra, je sais pas, 10 ans, avant de rattraper un niveau de plein emploi de 7,6%. Voilà, soulignant que les jeunes payent un très lourd tribut avec plus de 3,5 millions de moins de 25 ans sans emploi en Europe, soit près d'un quart de cette tranche d'âge, sachant que en Grèce et en Espagne, ce chiffre dépasse les 50%. Voilà, cette situation explique la perte de confiance dans les institutions nationales ou européennes. Or, on ne peut relever le défi du chômage en revenant aux solutions nationalistes du passé. Bravo, a estimé M. Coeur. Pour lui, seul un effort conjoint pour faire reculer le chômage de manière soutenable en utilisant à la fois les instruments nationaux et européens. D'accord, eh bien, en l'absence d'action résolue pour la croissance, le risque est réel de créer une génération perdue, comme l'Europe l'a fait dans des circonstances plus tragiques en 14-18, compare-t-il, a jugé le responsable de la BCE. Voilà. Les interdépendances et la responsabilité commune qu'implique l'euro créent un impératif de solidarité face à la crise. Eh bien, écoutez, messieurs, on serait ravis si la BCE, l'Allemagne et le vous entendez voilà, s'ils pouvaient éventuellement baisser l'euro, mettre fin voilà à la politique d'austérité, voilà, c'est des belles paroles dont on attend encore les effets.
Et tout à fait, on écoute un petit Beatles et ensuite on reprend la parole. Merci. C'était les Scarabées, enfin The Beatles, donc qui chantaient Dear Prudence, chère Prudence. Nous ne sommes pas prudents puisque nous allons dénoncer ici un certain nombre de choses, surtout sur le chômage et la précarité, puisque c'est notre émission. Voilà, donc vous êtes toujours sur 106.3 FM, dans Mission Mode d'Emploi avec Ludo, Gilles et Claude à la technique. On va parler maintenant de l'explosion des contrats courts, qui, je crois, c'est 83% de contrats courts aujourd'hui sur l'ensemble du secteur. Hein, dis-moi un peu.
C'est 83% des
recrutements des entreprises, hein, c'est ça.
Des emplois qui ont été signés dans l'année.
C'est ça.
2013. Donc bon. Mais je rassure les auditeurs, il n'y a pas 80% de personnes en CDD.
Donc
83%, c'est pour les CDD de moins. Oui, c'est ça, de recrutement des entreprises pour les CDD de moins d'un mois. C'est énorme, énorme. 86% sont des contrats sont pris globalement. Des contrats signés actuellement sont des CDD selon les données de l'URSSAF. Donc c'est assez fiable. Et voilà, donc deux tiers de parmi les 30 millions de contrats qui ont été signés cette année sont des CDD de moins d'un mois. Et c'est le couronnement d'une évolution qui date depuis 2000 aussi, hein, qui est la première fois qu'on a commencé à compter les CDD, la signature des CDD. Cette explosion s'est faite d'abord sur les contrats les plus courts, et en 10 ans le nombre de CDD de moins d'un mois a plus que doublé, passant de 1,8 à 3,7 millions. Entre le troisième trimestre 2003 et 2013. Dans le même temps, les CDI et les CDD de plus d'un mois sont, eux, restés stables entre 700 000 et 1 million. Voilà, sur les 20 millions de contrats signés, chaque année, deux tiers sont des CDD de moins d'un mois. C'est spectaculaire, cette tendance est en hausse depuis le début des statistiques. Et la crise n'a rien changé à la courbe, dit Eric Ayer, l'économiste de l'OFCE. chaque mois, ce sont les CDD qui représentent le gros des bataillons des nouveaux chômeurs, puisque effectivement, c'est la fin de CDD qui fait que...
Qu'on rentre au
chômage, bien sûr. Plus de 25% des nouveaux inscrits à Pôle emploi sortent d'un CDD, un quart, contre moins de 3% d'un CDI. Le CDD est devenu la marge de flexibilité des employeurs qui n'hésitent plus à faire des contrats à la chaîne, même pour quelques heures. Ce qui fait dire à monsieur Jean-Christophe Skibera, président de l'Association nationale des DRH, qu'il y a un mouvement structurel de transfert de l'aléa économique vers les CDD et la sous-traitance. Voilà, donc là, en moyenne, l'UNEDIC estime que 1,1 million des chômeurs exerçaient une activité tout en restant inscrits à Pôle emploi en 2012. Donc vous avez bien entendu, on a parlé, hein, de ce million de catégories B et C, donc qui travaillent tout en touchant des ACEDIC. Le chiffre a doublé depuis 1995, mais il faut rappeler toutefois que la part des actifs français en CDI n'a baissé que légèrement, hein, passant de 77 à 76 en 10 ans. Et ça, les personnes qui sont en CDI représentent 76%. 76,6% aujourd'hui. La part de CDD est passée dans le même temps de 8 à 8,5%. Donc effectivement, on a une situation qui est marginale, enfin par rapport au marché du travail, mais qui s'accroît, et grosso modo, c'est semble-t-il toujours un peu la même population qui est touchée par cette flexibilité. Donc effectivement, les jeunes
et beaucoup
en premier, et puis les moins qualifiés, et ceux qui travaillent dans les services, c'est les principales victimes de cette précarisation à outrance. Alors, va-t-elle se résorber un jour, pose la question. Alors, soi-disant, c'est un des principaux objectifs de l'accord du 11 janvier sur l'emploi, donc le fameux ANI, dont les modalités sont entrées en application début juillet. Et donc parmi elles figure notamment une surtaxation des CDD courts. Donc les cotisations chômage patronales sont passées de 4% à 7% du salaire pour les CDD de moins d'un mois. Et à 5,5% pour ceux d'un à trois mois. Donc on rappelle qu'il y a eu un débat là-dessus pour savoir s'il fallait durcir, avec le MEDEF a obtenu au dernier moment le fait que ce soit concentré sur les salaires de moins d'un mois, quoi. C'était encore une concession. Et tout ça, bien sûr, au SMIC. Hein, on parle juste des salaires au SMIC.
Oui,
la cotisation sécurité sociale. Voilà. Donc le surcoût représenterait, pour vous donner une idée, environ 45 euros. Par mois. Donc bon.
Ça va.
Est-ce que ça va décourager les employeurs d'avoir recours au CDD, rien n'est moins sûr. Et en parallèle, on rajoute l'article, qui est tiré du Monde, hein, je précise, les licenciements collectifs ont été facilités par le biais d'une procédure raccourcie pour les employeurs. Voilà, donc ça c'était l'autre concession. Alors, il faut quand même préciser que ne sont pas concernés par cette surtaxe les intermittents du spectacle, l'intérim, les CDD de remplacement, donc les vrais CDD, hein, ceux du Code du Travail, et les CDD d'usage, donc qui sont exemptés totalement ou presque entièrement de la surcotisation. Donc rien n'est moins sûr en fait que 3 points de cotisation changent quelque chose. Surtout pour des contrats de quelques heures. L'indemnité de précarité créée en 90 n'a pas fait baisser la précarité en fin de compte. Donc voilà. Donc à la CFDT, rappelez que la CFDT a été signataire de cet accord. Hein, on précise que il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de l'accord sur cet emploi. On se justifie en disant qu'il était à la CFDT qu'il était de toute façon important de dire que les contrats courts ne pouvaient pas être la norme. On n'a pas assez de recul, estime-t-on au MEDEF, en plaidant la peur de l'embauche et la conjoncture incertaine. Du côté de la CGT, on voit les choses de façon un peu plus carrée, dit c'est un peu normal, les CDD coûtent beaucoup plus cher à l'assurance chômage que les CDI, et on va en parler tout à l'heure, c'est la Cour des comptes qui le dit. Il faut que le surcoût soit payé entièrement par ceux qui les utilisent, et donc il faudrait, c'est M. Éric Aubin qui parle de ça, et donc il faudrait passer à une cotisation de 8% pour tous les CDD. Voilà, quoi qu'il en soit, la résorption du CDD pourrait être très longue. Il n'y a pas de consensus social pour corriger le dualisme, que ce soit du côté patronal ou salarial, puisqu'on a écarté l'échec de tout débat autour du contrat de travail unique. Ben oui, on comprend que les gens qui sont en CDI n'ont pas envie de voir tout d'un coup leur situation se précariser au nom d'un hypothétique augmentation du résorption du chômage ou de la précarité. Très hypothétique, on a envie de dire. La précarité pour tout le monde.
Et à l'inverse, dans le même temps, en 10 ans, entre 2003 et 2013, les CDI n'ont baissé que de 1 point. C'est-à-dire qu'ils étaient à 77,6% en 2003. Mmh. Ils sont maintenant à 76,6% en 10 ans. Hein. Et la part de ceux des CDD donc, est passée, comme tu l'as dit tout à l'heure, de 8,1 à 8,5. Donc ils ont gagné 0,4 points. C'est quand même c'est pas mal. Hein. Alors ce qu'a gagné, alors tu parlais de l'année tout à l'heure, ce qui a gagné également.
Il faut dire aussi que le chômage lui a gagné aussi pas mal.
Oui, tout à fait. Ouais. Parce que dans le cadre de l'année aussi, il faut dire un truc qu'on n'a pas cessé de répéter dans cette émission, c'est que ce qu'a gagné le patronat, enfin ce qu'a gagné le MEDEF aussi, c'est la possibilité de licencier avec beaucoup plus de facilité. Hein.
Oui, tout à fait. Pour certains types de contrats.
Pour certains types de contrats, tout à fait. Très bien. Oui, vas-y.
On va peut-être en parler tout de suite, mais la Cour des comptes, elle, justement, a publié un arrêté qui pointe du doigt justement les problèmes de l'indemnisation des précaires. Donc je propose d'en parler juste après.
Juste après la chanson, très bien. Une petite chanson, Claude, s'il te plaît, merci. Des petits soucis techniques, sans doute dus au disque qui a été esquinté dans le voyage. Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission des chômeurs précaires, l'émission mode d'emploi. Je suis avec Ludo et Claude à la technique, c'est Gilles au micro aussi. Nous en parler maintenant, évidemment, de cet arrêté du 19 septembre 2003 de la Cour des comptes, qui parle principalement des problèmes de l'indemnisation des précaires. Ludo, qu'en est-il exactement de cet arrêté ?
Eh bien, écoute, l'arrêté était pondu, à mon avis, pour une raison très simple, c'est qu'en janvier, il doit y avoir une renégociation de la convention UNEDIC. Et donc, parmi cette convention UNEDIC, il y a toujours trois. Désormais, on sait qu'il y a deux régimes qui sont plus ou moins dans le collimateur. C'est celui des intermittents du spectacle, comme habituellement, mais curieusement, la Cour y a ajouté celui des CDD. Cours, de l'indemnisation des CDD courts. Alors pourquoi ? Elle pond sa note en faisant un comparatif entre ce que, grosso modo, le régime général de solde des CDI, de le régime général, le solde des CDD. Donc, pourquoi faire ça? Parce que c'est un peu tendancieux quand même. Oui, grosso modo, elle compare ce que versent les cotisations des gens qui sont en CDI et de ce que les chômeurs qui étaient en CDI perçoivent.
Oui.
Donc évidemment, il y a une masse de CDI comme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que les chômeurs en CDI. Donc forcément, le ratio est vraiment très favorable aux gens en CDI. Donc bon, c'est très louche de faire ce genre de comparaison. Non, mais à titre, juste à titre, hein, en fait, grosso modo, tout, si on part sur cette base-là, tous les régimes sont déficitaires, sauf le régime des CDI.
Ouais.
Voilà. Enfin, le solde des CDI, le solde des CDD. En réalité, il n'y a pas de différence entre le régime général pour les CDI et pour les CDD. Si on passe au CDD, là, par contre, on a un sacré solde négatif. Ben oui, le CDD alimente le chômage, comme on l'a vu, à hauteur de 25% enfin, 25% des chômeurs sont des gens qui sont sortis de CDD. Donc là, on a le plus gros, effectivement, ce qui coûte le plus cher à l'UNEDIC, les gens qui sortent de CDD. Mais...
Il y a un mais.
Tout ça pourquoi? Oui, tout ça pourquoi? Parce que, je veux dire, il n'est pas question de créer des régimes spécifiques pour le CDD et pour le CDI. Mais là, on passe à l'annexe 8 et 10, qui est le solde des intermittents du spectacle. Et à l'annexe 4, qui est le solde des intérimaires. Car c'est là que devient ça devient intéressant, puisque le régime est un petit peu différent du fait effectivement que quand on est intérimaire, ben on est plus sujet au chômage que les autres, et quand on est intermittent du spectacle, on est bien plus sujet au chômage que les autres. Et donc là effectivement, le solde négatif est important par rapport aux cotisants. Alors pour les intermittents, ça peut justifier un peu puisque là c'est vraiment le régime est vraiment spécifique, et surtout le ratio allocation contribution est extrêmement important en ce qui concerne les soldes le solde des intermittents du spectacle. Donc toute cette comparaison aboutit à montrer que, parce que la Cour constate qu'en 2013, il y a une explosion de CDD.
Oui, ce qui est plus ou moins vrai. Enfin, bah oui.
Oui, non, ce qui est tout à fait vrai.
Tout à fait vrai,
on va le voir. Oui. Et que donc, cette explosion de CDD creuse le déficit de l'UNEDIC.
Bien sûr.
Et donc, il faut une solution à cette explosion des CDD.
Embaucher les gens en CDI, peut-être, non?
Non, mais là, tu demandes la lune. Hein. La Cour avait préconisé dernièrement, celle qui a préconisé avant l'accord sur l'ANI, une taxation des CDD.
Ah, c'est bien ça.
Donc elle a fait un petit effort. Bon, ça n'a pas été trop suivi d'effet, hein, à 4%, on l'a vu, sur vraiment dont une large partie des contrats sont justifiés. Donc, quelle est la solution pour mettre fin à cette pléiade de CDD qui creuse le chômage?
La question,
eh bien, c'est simple.
Oui, dis-moi tout.
Hein. C'est très simple. Il suffit de réduire les bénéfices des intermittents du spectacle.
Ah oui,
pour équilibrer le régime.
Ouais.
Exactement. Ouais. Pour équilibrer le régime d'assurance chômage. Parce que oui, le ministre de l'économie, Monsieur Moscovici, a fait savoir à l'UNEDIC qu'il avait l'intention quand même de gagner 300 millions d'euros, qu'il fallait équilibrer les comptes. Enfin, on risque pas de déséquilibrer. Mais que bon, c'était au minimum 300 millions d'euros de rabot nécessaire pour la prochaine convention unique.
Mais Moscovici, c'est pas un intermittent du spectacle, c'est pas un...
Oui, bon. Oui, mais c'est vrai, je ne connais pas sa profession.
Exactement.
Tu me le dis. Enfin, je veux dire, d'avant, quoi. Bref. Et donc voilà. Donc, non, mais je suis très sérieux. Donc, effectivement, il faut une égalité par le bas. Et effectivement, les arguments que défend la Cour sont extrêmement justifiés, semble-t-il, dans certains cas, puisqu'ils montrent effectivement, par A plus B, on a envie de dire, que pourquoi en ce qui concerne les intérimaires, en fait, finalement, bénéficient du fait que la nature de leur activité et la disparité même enfin du nombre de personnes qui est intérimaire. Je veux dire par là qu'il y a des intérimaires qui vont travailler tout le temps, qu'il y a des intérimaires qui vont travailler très peu,
ouais,
et qui donc certains auront besoin d'une allocation au chômage importante et d'autres et d'autres moins, voilà.
Et une variété de contrats très diverses,
exactement, variées, oui, mais j'imagine. C'est toujours des contrats intérimaires, donc je veux dire ils acceptent la précarité donc c'est une facilité hein, quand même pour le voilà de demain vous êtes intérimaire, on n'a plus besoin de boulot, on n'a plus besoin de vous, la mission s'arrête, quoi. C'est pas un contrat fixe. Donc, les intérimaires, pour ça, bénéficient d'un certain nombre d'avantages, qui est que, notamment, il y a, qui peuvent, qui n'ont pas de plafond, par exemple, de volume horaire travaillé pour continuer à toucher leurs ACEDIC ou pour toucher les ACEDIC. Je veux dire par là qu'en fait, les intérimaires, les trois quarts du temps, cumulent, très largement cumule une indemnité chômage plus le salaire, leur salaire effectif. Donc la Cour des comptes montre donne des chiffres hein, voilà. Donc par exemple pour l'annexe 4 en moyenne nombre d'activités par mois en moyenne en 2011 nombre d'activités par mois 96 heures pour un intérimaire. Donc je rappelle que la limite, c'est 151 heures. C'est pas la limite légale, mais c'est 35 heures, c'est 151 heures. Donc, vous voyez, c'est un peu plus de la moitié. Bon, ramener au CDD, qui travaillent, je veux dire, des CDD qui sont précaires aussi. Il y a beaucoup de CDD précaires. Le nombre d'heures d'activité, c'est 50 heures en moyenne, en 2011. C'est bien pour dire qu'être en CDD aujourd'hui, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Et donc, si on compare effectivement, alors, à l'annexe 8 et 10, c'est-à-dire les techniciens du spectacle et les intermittents du spectacle, les vrais, enfin les artistes, là, on est à un volume de 63 et 60 heures. Ce qui fait qu'en définitive, les gens qui sont les plus, enfin, qui travaillent le moins, en fait, sont les CDD. Alors, autre exemple, salaire perçu, quand on est en CDD, en moyenne, 575 euros par mois.
Ça, c'est un CDD partiel alors.
Exactement, d'accord, partiel. Sauf que c'est quand même un salaire moyen.
C'est ça, un moyen. Ouais.
Ok, sur les CDD, le salaire moyen est de 573 euros. Alors, évidemment, d'accord. En parallèle, montant d'allocation perçue est de 576 euros. Donc on obtient un revenu total de 1151 euros pour un CDD en moyenne. Voilà, donc l'allocation, la part d'allocation est de 50%. Pour les intermittents du spectacle, eh bien le salaire perçu déjà est nettement plus je dis les intermittents à chaque fois, mais pour les intérimaires, le salaire perçu est déjà nettement plus important. Pour 85 heures, on perçoit un salaire de 1154.
Ah oui, c'est carrément le double effectivement.
Et oui, parce que l'intérimaire paye la précarité. Ça a été fait pour ça. Donc on gagne pas si mal quand on est payé. Et le montant de l'allocation perçue est de 486 euros. Donc on obtient un revenu moyen de 1640 euros. Et l'allocation n'est que de 30%.
D'accord.
Voilà. Et maintenant, effectivement, il y a les profiteurs du système.
Voilà.
Les profiteurs. Alors il y a deux profiteurs. Il y en a un qui est moins profiteur que l'autre. Donc le moins profiteur que l'autre, en fait, c'est l'artiste, quoi. Le vrai. Hein. Celui qui bénéficie pleinement du régime d'intermittent du spectacle. Bon, eh bien, l'artiste, il perçoit un revenu. Attendez, je crois que j'ai dit une bêtise. Oui, l'artiste travaille en moyenne 60 heures par mois, perçoit un salaire de 826 euros par mois. Donc, en nombre de jours indemnisés, c'est le nombre de jours indemnisés le plus important, puisque c'est 25 jours indemnisés sur le mois.
Oui.
Là où c'était 19 pour le CDD et 13 l'intermittent. Et donc, l'allocation perçue, quand même, c'est 1357 euros. Donc, effectivement, l'artiste.
Donc, il touche plus en étant au chômage qu'en travaillant, alors.
Donc, l'allocation au chômage représente 62% de son revenu.
Donc, sur la période du travail, pas évidemment, d'accord.
Non, sur un mois donné.
Ah, sur un mois donné, d'accord.
Il a, en moyenne, hein, voilà, il parvient, si on répartit les heures, voilà. Donc, ça, moi, ça me paraît beaucoup, d'accord, personnellement, ces chiffres.
C'est énorme, effectivement. Enfin, c'est énorme.
Beaucoup, hein, pour les intermittents qui bénéficient des droits ouverts, hein, bien sûr, on parle de ça. Et par contre, alors, celui qui, lui, gagne encore plus, est encore plus favorisé, c'est évidemment le technicien du spectacle, parce que lui, en réalité, il travaille beaucoup plus enfin, il travaille beaucoup plus, il travaille pas beaucoup plus, mais il a une activité qui est plus continue. Et donc là, en homme d'activité, bah, donc il a 63 heures, et puis en salaire perçu, c'est 1500 euros. Vous voyez? Mais, en montant d'allocation perçu, c'est 1498 euros. Donc, total revenu, 3000 euros, dont 49% d'allocation. D'accord. Alors, évidemment, c'est sûr, avec une démonstration pareille, ma foi, on peut se dire que vraiment, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Sauf que, si vous voulez, ce qui est quand même un peu contestable, c'est qu'il faille voir le régime, le déficit exposé sous l'effet du chômage et sous la précarité, quoi, en fait, hein, la précarité, le nombre de CDD signés, pour tout d'un coup s'attaquer, donc, soi-disant privilégié, hein, des intermittents du spectacle, voilà. Alors, ce que précise aussi la Cour, c'est que finalement, donc il explique, hein, les caractéristiques des annexes 8 et 10, c'est une forte récurrence d'indemnisation, une durée moyenne d'indemnisation sur l'année élevée et un montant moyen perçu par an près de 4 fois plus élevé que celui des CDD du régime général et 3 fois plus important que celui des intérimaires. Voilà. Et il dit particulièrement, donc il y a aussi quelque chose qu'il faut connaître, hein, c'est la consommation des droits. Donc en régime général, finalement, grosso modo, on utilise un chômeur qui vient d'être au chômage et qui sortait d'un CDD utilise 59% de ses droits. Bon, pour une allocation journalière qui est franchement ridicule, elle se monte à 28 euros. Voilà, hein. Voilà, et nombre moyen de jours indemnisés par an, c'est 134. Alors que, si vous voulez, un intérimaire, lui, déjà, il en consomme beaucoup plus, tout en travaillant plus. Vous voyez, 63% de consommation des droits. C'est-à-dire qu'il est, bon, ben, et par contre, bon, ben, évidemment, l'intermittence du spectacle, c'est respectivement 95 et 99% de consommation des droits.
D'accord, très bien.
Donc voilà. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que les recommandations de la Cour pour la prochaine négociation UNEDIC, ouais, en fait, c'est à terme
de mettre même purement au niveau, ouais.
Exactement, ouais. Et purement et simplement de supprimer le régime de l'intermittence du spectacle. Voilà, et d'augmenter les cotisations des employeurs quand même, et de les rendre variables en fonction du recours au travail intermittent. En fait, ce que dit la Cour, c'est qu'il faudrait une vraie réforme de l'intermittence du spectacle, c'est-à-dire faire payer aux employeurs le fait de les utiliser, en fait, hein, c'est-à-dire à partir d'un certain volume, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'employeurs qui abusent de ce système-là, voilà, et bon, grosso modo, hein, on en reparlera de toute façon, mais les techniciens sont aujourd'hui les principaux bénéficiaires du régime, ils affichent des durées de travail plus longues et sont plus sujets que les artistes à la dérive de la permittence, leur niveau d'indemnisation sont également plus élevés. Voilà, voilà, donc à la prochaine, en fait, donc en hiver. Je pense qu'il y aura quand même, pour les intermittents du spectacle, il y aura du souci à se faire lors de la renégociation de la convention UNEDIC.
Très bien, merci Ludo. On s'écoute une petite chanson, on prend la parole après, merci.
Notre Père qui es aux cieux.
Superbe texte de Boris Vian avec chanté par évidemment Reggiani. Voilà l'état dans lequel vous serez tous après un an de chômage, j'imagine, le fossoir un peu mou, le cerveau qui me servit, etc. Donc vous êtes bien, c'est une petite blague, c'était pour reprendre cette parole libre sur Fréquence Paris Pluriel, car nous sommes une radio libre, voilà, et militante. Et nous reprenons cette parole pour vous parler un petit peu. Donc c'est toujours Ludo, Gilles au micro, Claude à la technique, dans l'émission Mode d'emploi sur 106.3 FM, donc Fréquence Paris Pluriel. J'avais envie de vous raconter, mais enfin, c'est pas une histoire, mais c'est en fait les 40 000 suppressions d'emplois en 2014, ce plan social qui est invisible et qui frappe le secteur associatif. Vous savez que toute association de loi 1901 bénéficient d'aides d'État sous forme de subventions. Et les subventions sont souvent en baisse, surtout depuis un certain nombre d'années. Et là, apparemment, c'est carrément au couteau qu'on y va, puisqu'on supprime un certain nombre de subventions, d'autres qu'on divise par deux, dans pas mal de régions et départements. Et là, ce qui est touché principalement, donc, ce sont les associations donc de prévention avec les éducateurs de rue, donc ces jeunes éducateurs ou éducateurs plus âgés qui ont une formation de 3 à 5 ans de formation en école comme les assistantes sociales, hein, et qui vont à la DA, qui vont donc s'occuper des jeunes difficiles dans les quartiers, délinquance, etc., prostitution, toxicomanie. Et qui se retrouvent maintenant à la rue. Alors, effectivement, en janvier 2014, il n'y aura plus aucun éducateur dans les rues d'Orléans, qui est une grande ville, hein, n'oubliez pas, de Montargis et de Pétiviers, pour aller à la rencontre des collégiens et des ados. En Seine-et-Marne, par exemple, et en Seine-Maritime, même processus, le nombre d'éducateurs de rue est divisé par deux, suite à la décision du Conseil général de réduire les subventions de 6,8 millions d'euros à 3,5 millions d'euros pour cette catégorie. Cette coupe budgétaire a un impact immédiat sur les associations de prévention. Financé à 90% par le département, emploi supprimé sur les 140 que compte le secteur. Une rallonge de 500 000 euros du Conseil général pour solder les licenciements. Alors, c'est-à-dire, j'espère que j'ai pas été trop rapide cette lecture. Ça veut dire que le département préfère donner 500 000 euros pour licencier que pour payer les salaires. C'est quand même hallucinant, quoi. Là, on en est là. Il y a d'autres choses encore. La prévention spécialisée n'est pas la seule touchée. En Isère, par exemple, le planning familial, qui est quand même un secteur important, hein, dans la vie de la famille, hein, est dans une situation très difficile depuis l'annonce par le Conseil général d'une diminution des subventions de 98 000 euros. Voilà. Au bout de la chaîne, des associations mettent la clé sous la porte ou se séparent de leur départ permanent. Entre 2010 et 2012, le secteur associatif a perdu 11 000 emplois alors qu'il représente aujourd'hui un emploi sur 10 du secteur privé. C'est quand même impressionnant, faut l'avouer. L'année 2014 s'annonce donc très difficile pour ces associations compte tenu des 14 milliards d'économies annoncées par le gouvernement, dont 1,5 milliard de baisse de la dotation des collectivités locales. Le monde associatif subira un plan social invisible de 30 000 à 40 000 emplois l'année prochaine. À Saumur, encore, on fait le tour un peu de la France, là, on fait un tour de là. À Saumur, la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, s'est vu. J'ai de la musique qui m'accompagne, super, merci. Ça va tout à fait dans le contexte, en plus, donc c'était une MJC, voilà. À Saumur, la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, s'est vu refuser une subvention de l'État de 7 000 euros. Du coup, la ville, qui subordonnait son financement à celui de l'État, refuse de mettre la main au portefeuille. Les 7 000 euros en font donc 15 000 de moins pour l'association. Cette situation met en déséquilibre le poste de directeur qui va être supprimé. Pour 7 000 euros, on va envoyer au chômage une personne qui coûtera bien plus cher aux comptes sociaux. Voilà. Alors d'où vient cette restructuration ? En juin 2008, le rapport pour un partenariat renouvelé entre l'État et les associations est remis à Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé et de la Jeunesse, et de la vie associative. Ce dernier propose de rompre avec la culture de la subvention et suggère que la distribution des subventions laisse désormais la place à un système de commande publique. Ah, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que l'associatif, aujourd'hui, l'association n'est plus, ne peut plus être d'utilité publique, puisqu'elle apporte un bien à la société. Ne peut plus être. Il faudrait qu'elle apporte, qu'elle réponde à des commandes d'État, ce qui est quand même hallucinant. D'ailleurs, c'est une remise en cause de la loi. c'est hallucinant. Enfin bon, ça me fait trop rigoler cette histoire. Enfin bon, ça me fait même pleurer plus ou moins. Alors, c'est Viviane Tchernogog et Pierre Verkamer qui expliquent ça dans une étude sur le sujet. En janvier 2010, la circulaire Fillon enfonce le clou. Donc c'est Fillon, hein, donc l'ancien premier ministre de Sarkozy. Elle affirme que la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des activités économiques. Ah. Et entre donc dans le champ concurrentiel.
Eh ben donc. C'est on aura tout entendu.
Tout entendu, hein, c'est hallucinant.
La mise en concurrence des associations.
C'est pour ça que je parle vite parce que ça m'énerve un petit peu cette histoire. Voilà, parce que nous on est aussi une association FPP, sachez-le. Hein.
Non, mais nous on est concurrentiel.
On est concurrentiel à qui et voilà. Alors l'idée générale de ce genre de principe de couper les subventions aux associations, c'est Les associations sont certes sympathiques, mais souffrent d'amateurisme. Aïe. Analyse le chercheur Jean-Louis Laville. Aïe. Elles doivent donc moderniser leur fonctionnement en empruntant les formes de management des grandes entreprises privées.
Eh ben.
Pour être moderne, les associations doivent se convertir en ce que Mohamed Younous a désigné comme « social business », c'est-à-dire des entreprises à but social fonctionnant comme des entreprises adossées à de grands groupes privés qui vont leur permettre de gagner en performance. Alors je dis, non, je t'ai plus, arrêtez là. Ah ben non, faut...
Je ne savais pas qu'une association était rentable déjà.
Non mais c'est... Là, je tombe de l'armoire, on peut dire ça comme ça.
Et
c'est,
pourtant ça date,
oui,
hein,
je
ça
tombe
date
de l'armoire. 2000... Oui, tout à fait, c'est quand même hallucinant. Il est quand même, voilà. Alors j'arrête sur les associations parce qu'il faudra quand même poursuivre cette affaire comme, qui me
Absolument.
Paraît quand même importante.
Mais ça fait longtemps que ça dure. Ouais.
Ça dure depuis un certain temps déjà, oui, oui. Alors, je suis d'autant plus touché parce que ça touche les éducateurs de rue, qu'il y a un métier que je connais bien, enfin que je connais pas mal d'éducateurs de rue, surtout anciennement. Et ça touche effectivement toutes les associations de formation, toutes les associations qui sont effectivement employeuses aussi.
Bah, soumises à la concurrence aussi, mais non. Oui. Hein, on n'a pas encore dit libre non faussé, mais.
Alors oui.
Ça va arriver.
Alors il reste quand même deux sujets, enfin un petit sujet. Donc.
Sujet préféré.
Je m'entends plus, Claude. Merci. Alors, quand même, il faut dire quand même que la Commission européenne vient d'approuver la subvention de 150 millions d'euros octroyée par les autorités françaises à la Société des aéroports du Grand Ouest. C'est-à-dire que l'Europe va indemniser donc l'aéroport de Nantes, qui va être l'aéroport de Nantes, qui va se faire sur quand même 2000 hectares de terres agricoles cultivables. Attention, hein. Et qui va entraîner la destruction d'emplois paysans et donc l'atteinte à la vitalité des territoires ruraux. Donc moi, dans cette radio, ça fait des mois et des mois, toutes les missions confondues, qu'on critique cette construction de cet aéroport, qui est cynique et inique, hein, de la part de l'État. Et là, c'est l'Europe qui s'y met. Donc, merci, messieurs.
Au nom du principe de la libre, concurrence.
Oui, oui, oui.
Et de ne pas financer, hein, toujours de pas d'aide à l'État. L'État ne doit pas financer des projets industriels, il n'y a pas le droit. Sauf pour Notre-Dame-des-Landes.
Voilà. Alors, cette émission se termine. Je finis par une annonce quand même qui est importante, puisque ça touche le chômage et la précarité, dont nous sommes tous concernés, hein. Donc c'est la manif du 7 décembre 2013. Le chômage ne se réduit pas à un chiffre, ni la précarité à une courbe. Voilà. Donc c'est le 7 décembre 2013, c'est au métro Stalingrad, métro Stalingrad, voilà. C'est à 14h, il faut tous y aller, n'oubliez pas d'y aller, c'est donc bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission, messieurs, dames, de l'avoir écouté. Merci Ludo d'avoir fait cette émission avec moi.
Merci. Grand
reporter,
et bonne soirée.
Sur tous les champs aujourd'hui. Merci à Claude Technique. Je vais faire un gros bisou aux filles, une poignée de moins garçons. Salut. Mmh.